Il est 10h à Paris, 9h à Libreville, 8h en temps universel. Merci d'écouter RFI. À suivre dans 10 minutes vos questions sur l'actualité et dans 40 minutes vos réactions aux résultats provisoires de la présidentielle au Gabon. Plus de 90% des voix pour Oligui Nguema. Mais d'abord le journal international. Bonjour Gaël Templenet.
Bonjour Juan, bonjour à tous. Et cette présidentielle au Gabon, on va en parler. On va aussi parler du président équatorien sortant, Daniel Noboa, qui parle lui d'une victoire historique. L'autorité électorale annonce qu'il est réélu après le second tour de la présidentielle hier. Les résultats ne sont pas encore définitifs, mais il est en tête assez nettement, d'ailleurs, devant son opposante de gauche, Luisa González, qui, elle, prévient, elle ne reconnaît pas ses résultats et réclame un recomptage. On va revenir sur cette annonce en Syrie, un puissant groupe armé du sud du pays qui annonce sa dissolution et son rattachement à l'armée syrienne. Un signe positif pour la transition et l'unification du pays. Et puis il était lu, mais il aimait lire aussi, plus que tout. Le prix Nobel de littérature 2010, l'hispano-péruvien Mario Vargas Llosa est mort hier, il avait 89 ans. Le premier tour de la présidentielle avait été très très serré en Équateur. Les résultats du second sont plus nets. Le président sortant Daniel Noboa réélu hier avec près de 56% des suffrages contre un petit peu plus de 44% pour son adversaire de gauche Luisa González. Même affiche qu'en 2023. Et même vainqueur aussi. Bonjour Éric Sanson.
Bonjour.
À notre correspondant en Équateur. Alors le dépouillement, Éric, n'est pas encore tout à fait terminé. Il reste un peu moins de 5% de bulletins à dépouiller. Mais on peut parler de résultats définitifs ?
Il faudra encore plusieurs jours pour que le résultat officiel soit proclamé. Le temps de recevoir les bulletins de l'étranger et ceux des bureaux de vote les plus éloignés, par exemple de l'Amazonie. Mais la tendance est irréversible, a indiqué dimanche soir la présidente du Conseil national électoral, Diana Atamaint. Cela dit, la candidate de gauche de la Révolution citoyenne, de l'ex-président Rafael Correa, n'a pas reconnu les résultats. Luisa González s'étonne d'une différence de pratiquement 12%, alors que les deux candidats n'étaient séparés que par 15 000 votes à l'issue du premier tour.
Alors que peut faire le mouvement de Rafael Correa ?
Luisa González va demander à ce que tous les bulletins de vote soient recomptés. Pourtant, les plus de 1000 observateurs électoraux n'ont pas signalé de problème durant la journée électorale. Elle pourrait lancer ses partisans dans les rues, mais cela est risqué. Cela fait près de 8 ans que le mouvement coréiste cherche à reprendre le pouvoir pour annuler les condamnations qui pèsent sur l'ex-président Correa et ses collaborateurs. Ce nouvel échec risque de fracturer le mouvement. On en a vu hier soir un exemple avec le maire coréiste de la ville de Guayaquil qui sur X a reconnu la victoire du président Noboa et a demandé à son mouvement de ne pas être mauvais perdant.
Merci Eric Sanson, correspondant de RFI en Équateur. Au Gabon, c'est samedi que les électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur président. Et sans surprise, Brice Clotaire-Oligui Nguema l'emporte. Selon les chiffres globaux provisoires du ministère de l'Intérieur, le chef de la transition recueille plus de 90% des suffrages. Les candidats défaits ont 8 jours pour saisir la Cour constitutionnelle. Vous pouvez réagir dans Appel sur l'actualité avec Juan Gomez juste après ce journal. En attendant, le ministère israélien des Affaires étrangères l'affirme. La frappe d'hier sur l'hôpital Al-Ahli de Gazaville n'a fait aucune victime civile. Pas directement, en tout cas, car l'Organisation mondiale de la santé annonce, elle, la mort d'un enfant. Il a été privé de soins à cause de cette frappe, explique l'OMS, alors que cet hôpital, l'un des derniers qui était encore fonctionnel dans la bande de Gaza, est désormais à l'arrêt. Les Émirats arabes unis déterminés à soutenir la Syrie pour faire face aux défis de la phase transitoire et pour reconstruire le pays. Engagement pris hier par le président émirien Mohamed Ben Zayed Al Nahyan. C'était à Abu Dhabi, lors d'une rencontre avec le président syrien par intérim Ahmed Al-Shara. C'est lui qui a mené l'offensive rebelle qui a fait chuter le régime syrien début décembre après 13 ans de guerre civile. Et 4 mois plus tard, un puissant groupe armé syrien appelé la 8e brigade a annoncé hier sa dissolution et son rattachement à la nouvelle armée syrienne. Avec ses milliers d'hommes, cette brigade contrôlait jusqu'ici la province de Deraa, berceau de la révolution de 2011 dans le sud du pays. Manon Chaplin est notre correspondante en Syrie.
C'est dans une courte vidéo que Mohamed Al-Ourani, porte-parole de la 8e brigade, a annoncé hier sa dissolution. Cette décision s'inscrit dans une volonté de préserver l'unité nationale, de renforcer la sécurité et la stabilité, a-t-il déclaré, également de réaffirmer leur engagement envers la souveraineté du nouvel État syrien. Cette dissolution était en négociation depuis plusieurs semaines. Elle intervient 2 jours seulement après de violents combats à Bochra al-Sham, dans la province de Deraa, où la 8e brigade y avait affronté affronter un autre groupe local. Des notables du coin avaient ensuite négocié l'entrée des forces de sécurité dans la ville. Jusqu'ici, la 8e brigade qui contrôle la province de Dera avait refusé de déposer les armes. Elle a désormais négocié de pouvoir garder ses officiers dans la zone, de continuer à y maintenir la sécurité tout en étant officiellement intégrée au ministère de la Défense. Depuis la chute du régime, le nouveau pouvoir, qui ne dispose pas de suffisamment d'hommes pour contrôler l'entièreté du territoire, doit négocier avec les différentes factions. Déjà, début février, le gouvernement syrien avait annoncé la dissolution de tous les groupes armés. Manon Chaplin, à Damas, RFI.
Donald Trump prévient, il annoncera cette semaine des droits de douane supplémentaires sur les semi-conducteurs. L'offensive du président américain continue et aucun pays n'est tiré d'affaire, surtout pas la Chine, dit-il, bien qu'il ait annoncé des exemptions sur les produits high-tech, smartphones et ordinateurs, notamment très demandés par les Américains. C'est dans ce contexte que Xi Jinping est arrivé au Vietnam ce matin. Première étape de la tournée du président chinois en Asie du Sud-Est. Il ira ensuite en Malaisie et au Cambodge. Il espère compenser ses droits de douane américains en renforçant les relations commerciales de Pékin avec d'autres pays. Nom, adresse, date de naissance, des informations que tout accusé doit communiquer, doit décliner à la barre en Corée du Sud. Eh bien, même un ex-président doit le faire. Yoon Suk-yeol l'a donc fait tout à l'heure devant le tribunal central de Séoul, qui commence à se pencher sur le fond du dossier au pénal. Yoon Suk-yeol est poursuivi pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale en décembre dernier. Il nie toute insurrection, mais risque la prison à vie, voire la peine de mort après sa destitution par la cour constitutionnelle. C'était il y a 10 jours maintenant. En France, lui n'a pas été destitué, mais il a démissionné il y a quelques semaines et ça va bientôt être effectif. Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée depuis 2017, participera dans les prochains jours à sa toute dernière réunion de cabinet au Palais. Et Charles Turien-Thomaca, il sera remplacé par l'un de ses proches, le haut fonctionnaire Emmanuel Moulin.
Il deviendra au mois de juin secrétaire général adjoint de la Société Générale après avoir passé plus de 8 ans auprès du chef de l'État. Sa proximité avec Emmanuel Macron et sa force de travail lui avaient permis de s'imposer comme un rouage essentiel au fonctionnement de la machine étatique. Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin dernier, les rumeurs allaient bon train sur son possible départ, à chaque fois retardé. C'est donc chose faite, le vice-président, comme il est souvent surnommé, rejoindra le secteur privé. Une longévité au poste de secrétaire général jugée exceptionnelle et passé uniquement par Jean-Louis Bianco sous François Mitterrand. Pour lui succéder, Emmanuel Moulin prendra les rênes du secrétariat général. Il a occupé des postes clés, notamment directeur de cabinet de Christine Lagarde et de Bruno Le Maire, ainsi que directeur général du Trésor. Plus récemment, il était le directeur de cabinet du Premier ministre Gabriel Attal, un changement qui intervient à un moment stratégique, alors que le chef de l'État entame la dernière phase de son mandat.
Charlotte Turien-Thomaca du service politique de RFI. Les drapeaux en berne sur les bâtiments publics au Pérou, où une journée de deuil national a été décrétée. Hommage d'un pays à son auteur, Mario Vargas Llosa est mort. Il avait 89 ans, c'est sa famille qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Prix Nobel de littérature en 2010, on lui doit notamment La ville et les chiens, mais aussi Conversation dans la cathédrale. Un auteur apprécié pour sa description des réalités sociales, mais aussi pointé du doigt pour ses positions conservatrices. Mario Vargas Llosa restera à tout jamais le premier écrivain étranger à entrer de son vivant dans la collection très prestigieuse de la Pléiade. Il avait aussi été élu il y a 4 ans maintenant à l'Académie française, lui qui a longtemps vécu à Paris et qui voit une véritable passion autant à l'écriture qu'à la lecture. Il le disait lui-même d'ailleurs, pour lui, l'apprentissage de la lecture fut le grand événement de sa vie. Il n'avait alors que 5 ans.
Je crois que ça a été une frontière dans ma vie quand j'ai découvert qu'en lisant, on pouvait vivre une existence beaucoup plus riche que la vie véritable. Je pouvais voyager dans le passé, dans l'avenir. Je pouvais avoir une existence hors du commun. Alors la lecture a été si importante que dans ma mémoire, ce sont les livres que j'ai lus en Bolivie qui sont les plus pressants, beaucoup plus que mes camarades à l'école. Non, ce sont les personnages de Jules Verne, les personnages d'Alexandre Dumas. J'ai lu Dumas sur toute la série des Mousquetaires en état de transe. Hein.
Voilà, Mario Vargas Llosa, en 2021, au Collège de France, c'était au cours d'une conversation avec l'écrivain Antoine Compagnon. Et les hommages affluent ce matin. Son génie intellectuel et sa vaste œuvre resteront un héritage durable pour les générations futures, a réagi la présidente péruvienne Dina Boluarte. Le maître des maîtres pour l'ex-chef de l'État colombien Alvaro Uribe. Il est 10h10 à Paris. Appel sur l'actualité, c'est avec vous, Juan Gomez.
8h10 en temps universel. Merci Gaëtan Plenet. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera dans 20 minutes. La dernière édition d'Afrique.